Les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet. Le replay.
Bonsoir à toutes et à tous et c'est reparti pour votre rendez-vous du soir. Quel que soit le sujet, c'est toujours en toute convivialité. Émission avec notre partenaire France Route ce soir et en compagnie du grand Nicolas Grumel, rédacteur en chef du mensuel. Salut Nicolas.
Oui, de l'immense Nicolas Grumel.
Pardon, excuse-moi.
Remettons les choses à leur place quand même.
Tu vas bien ?
Ben oui, ça va bien. Et vous et toi, bonsoir à tous.
Ben nous, on va toujours très bien.
Qui c'est les compères du soir ?
Ah, ben tu vas le savoir, mais... Tu es bien demandeur d'un coup. Au programme ce soir d'abord, un essai DAF pas tout à fait comme les autres et les limitations de vitesse. Tout un sujet, particulièrement dans les grandes agglos. Le détail dans un instant, mais d'abord l'infotrafic sur un peu plus de 4600 km d'autoroute pour le sud-ouest. Mesdames, messieurs, Marielle Nogaret. Bonsoir Marielle.
Bonsoir Sébastien, bonsoir Hervé, bonsoir Nicolas. Voilà, une voix féminine ce soir.
Oui, et l'info une. Heureusement.
Ravie de vous retrouver.
Voilà. Pour la vallée du Rhône et le grand pourtour méditerranéen, je ne sais pas à quelle vitesse y va en berlier bleu à pédale. Hervé Améry, bonsoir.
Bonsoir Sébastien, bonsoir Marielle, bonsoir Nicolas. Est-ce qu'il y a des DAF à pédale?
On posera la question à Fabien Calvé, tiens. Je suis sûr qu'il aura la réponse. Et mais vous avez fini vos tours de rond-point hier soir, alors ou pas?
Oui, oh, mais c'est momentané, hein. Je fais 3 minutes par-ci, 5 minutes par-là, stationne pas toute la nuit. Hein.
En fait, les amis et Marielle, il faut savoir qu'Hervé nous a admis il y a quelques jours qu'il avait une grande passion, c'était de faire le tour des ronds-points. Voilà.
Donc, comme ça. Juste pour pédaler.
C'est ça, exactement.
Mais
voilà.
Est-ce qu'il les faisait dans le bon sens ou dans le.
dans le bon sens.
À contre-sens.
Non. Dans le bon sens.
Pas tout d'un coup, je suis pas prêt. Allez, je vous retrouve tous les deux dans moins d'une minute.
Non,
mais Nicolas, il y a l'infotrafic. Je coupe son micro, sinon on va pas y arriver. Je vous retrouve tous les deux dans moins d'une minute. Nous sommes le mardi 15 octobre 2024. Bienvenue à toutes et tous que vous nous écoutiez en direct ou en replay votre météo. Allez, c'est parti jusqu'à 23h.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir.
Émission donc avec notre partenaire France Route. Nous commencerons avec Fabien Calvé, la prise en main de deux camions DAF qui ont 50 ans d'écart. Attention, le premier qui me compare avec le plus ancien DAF. Hein. Auriez-vous aimé conduire un camion ancien ou l'avez-vous déjà peut-être fait? Et puis, tiens, en seconde partie, tout à l'heure, les limitations de vitesse continuent de s'abaisser, notamment dans les agglomérations. Dernière en date, le périphérique parisien est passé de 70 à 50 km/h. Qu'en pensez-vous? Vos temps de trajet ont-ils fortement augmenté ces dernières années? Radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et vous pourrez nous écrire directement dans ce studio.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sondage.
Est-ce que vos temps de trajet continuent d'augmenter sur vos lignes? Sondage à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook Les Routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus ensuite. Alors pour démarrer l'émission, je me suis un peu creusé la tête pour savoir quelle chanson je pouvais diffuser en lien avec un petit peu notre sujet. Bah, je suis allé fouiller un petit peu dans ma discothèque. Voilà.
Un truc néerlandais.
Non, parce que comme on va aller dans les années 70 avec Fabien Calvé, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait une chanson que je pourrais trouver? Et paf, j'ai trouvé Michel Mallory. Est-ce que ça parle à quelqu'un ici?
Oui, tout à fait.
Voilà. Et paf dans mon baf.
Et Nicolas, Michel Mallory.
Ah bah oui, Michel Mallory.
Oui, bien sûr. T'as pris le thé avec lui ce matin. Et bah, figurez-vous qu'il a écrit et chanté une chanson qui s'appelle Mon camion et qui date de 1977. On l'avait jamais diffusée dans cette émission.
C'est vrai.
Donc, voilà, c'est parti.
Vrai.
Thierry qui nous a fait un petit coucou. Bonsoir Sebamax. Bonsoir à tous et aux invités. Merci Thierry. N'hésite pas à réagir à nos deux sujets de ce soir. Et puis on a reçu également ce petit coucou d'Emen. Alors j'espère que je le prononce bien. Bonsoir l'équipe. Emen du 34. Je roule de nuit avec ma fille Sarah. Elle aimerait faire une dédicace à ses trois copines, Jada, Marie et Asia. Merci et bonne soirée. Bah, c'est sympa d'être accompagné avec sa fille dans le camion. Merci beaucoup pour le petit coucou. Et pareil, n'hésite n'hésite pas à réagir à notre thématique de ce soir. Vous aussi écrivez-moi, d'ailleurs j'ai des premières réactions sur nos sujets de ce soir. Vous aussi écrivez-moi quand vous n'êtes pas en train de conduire, connectez-vous sur radio177.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et vous pourrez m'écrire, nous écrire directement en studio et dites-nous si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer des camions plus vieux que vous ou vous auriez aimé pour voir la différence, car concrètement, il y en a, très clairement.
Les routiers sont toujours aussi sympas avec le magazine France Route, le mensuel des passionnés du camion.
Et pour en parler, notre spécialiste du camion devant l'éternel, Fabien Calvé. Salut Fabien.
Bonsoir à tous.
Comment ça va?
Bien. Sur une fin de Covid, donc je tousse encore un peu, donc désolé si de temps en temps ça tricote, mais bon.
Et il est là, et pourtant il est là.
Et là, il y a tous ceux qui étaient au 24 heures camion qui sont en train de se dire « Ah, il avait le Covid, Fabien Calvé !»
J'ai pas toussé une seule fois depuis mon retour du Mans. Alors, nous allons beaucoup parler dans l'émission...
80 000 personnes.
Nicolas.
Heureusement, je les ai pas tous vus.
Nous allons beaucoup nous parler dans l'émission dans les prochaines semaines, Nicolas, pour des sujets tout autant différents. Mais ce soir, parlons de cette prise en main un peu spéciale qui nous plonge dans les générations de nos parents et grands-parents. Tu as réalisé une comparaison inusitée, j'ai envie de dire, de deux DAF qui ont un peu plus de 50 ans d'écart. Première question, est-ce que c'était un rêve d'enfant ou une idée qui t'est venue un peu par hasard ?
Alors bon, c'était pas un rêve d'enfant parce que c'était pas forcément le camion dont je rêvais gamin. Je suis d'une génération un poil après. Moi, gamin, je jouais avec des petits modèles des 2008, des 3008 de chez DAF parce qu'il en existait. Je crois que c'était des Sicu, la marque, un truc comme ça. C'est une marque allemande. Enfin, il existait des petits modèles, mais pas des 2006 spécifiquement. Mais en parlant avec DAF, c'est des propositions que je fais souvent aux constructeurs. Je dis ça pourrait être sympa d'eux. Et soyons clairs, aujourd'hui, la cabine qui correspond le mieux aux attentes des conducteurs et qui offrent le plus de volume, etc. C'est le XG+, donc je cherchais un DAF de l'ancienne époque, parce que là, le grand écart est énorme. Et bon, voilà, c'était une forme de rêve de gosse avec une opportunité de comparer deux choses invraisemblables. Voilà, c'est un mix de tout ça.
Tu as comparé beaucoup de choses entre ces deux camions dans ton article de 5 pages avec des photos vraiment passionnantes à retrouver dans le numéro d'octobre de France Route, toujours disponible en kiosque. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué? J'ai plutôt envie de dire le point où tu t'es dit « Ah ouais, quand même !»
Alors, paradoxalement, c'est pas forcément sur l'équipement intérieur, bien qu'il y ait une différence colossale, mais c'est sur l'environnement à l'intérieur quand on roule, et notamment la chaleur. Alors bon, c'était en plein mois d'été, il faisait 31 degrés, je crois, en Hollande, ce qui n'est pas non plus commun, mais je peux vous dire que rouler, j'ai passé la journée dans ce camion, et rouler, alors sans la clim, c'est la vitre ouverte, c'est tout ce que t'as comme clim. Donc, tu vis littéralement avec le moteur. Déjà, même dans la petite vidéo que vous pouvez voir sur YouTube, je vais être très franc avec vous et vous dévoiler toutes les coulisses, j'avais enregistré une première version quand j'étais sur l'autoroute à 90 et tout, et on n'entend rien. Donc j'ai retourné une version où je parle, où j'expose je fais part de mon ressenti. Quand on était de retour à l'usine, autour de l'usine à faible vitesse, parce qu'à haute vitesse c'était quasiment impossible de s'entendre. Et quand on voit l'insonorisation, la chaleur à l'intérieur, tout ça, on peut se dire juste un truc. Ben, nos anciens, ils étaient costauds parce qu'ils faisaient des journées bien plus grandes que les nôtres aujourd'hui. Il n'y avait pas de restriction d'heures de conduite, etc. Et quand j'ai parlé avec ce monsieur Sanders, là, Roland, qui était adorable, un vieux monsieur à la retraite, mais passionné, quand il te décrit un peu ses journées de l'époque, tu dis « Ah oui, le métier a vraiment évolué.
» Bah écoute, on va en parler en détail. Je sens que ça va intéresser beaucoup de nos auditeurs et peut-être aussi de la jeune génération qui nous écoute. Tu restes avec nous. On va continuer d'évoquer ces deux DAF qui ont plus de 50 ans d'écart. Sinon, à vous toutes et tous, je vous rappelle également notre sondage de ce soir. Est-ce que vos temps de trajet continuent d'augmenter sur vos lignes? Sondage en lien avec notre seconde partie de l'émission. Il est à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook Les Routiers sont toujours aussi sympas, ou sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus ensuite via la bulle bleue Messenger. Et nous sommes toujours avec Nicolas et Fabien pour évoquer cette prise en main un petit peu particulière des camions que Nicolas a bien connus hein, dans sa jeunesse. Hein, évidemment, les camions... hein, Nicolas, tu les as bien connus, toi.
Ah, j'étais pas né encore.
Ah ouais, genre... nous, avec Fabien, on était tout petits. alors, Fabien, quand tu écris, ce sont deux camions de même catégorie à 50 ans d'écart, peut-être que certains de nos auditeurs se demandent de quoi on parle exactement quand tu parles de catégorie.
Ben, c'est des grands routiers, parce que c'est des camions qui étaient destinés à faire l'international. La preuve en est, c'est que le propriétaire alors faisait des pays Benelux, France, etc., mais il sortait des frontières. C'était ce qu'on appelait déjà des grands routiers, c'est-à-dire que même avec un véhicule aussi spartiate soit-il, parce que quand on voit la couchette, le siège, le volant, etc., et ce qu'on a aujourd'hui, on dit « Ah !» Mais, quoi qu'il en soit, c'était des grands routiers, c'était des camions destinés à faire la longue, et comme l'est l'XG Plus aujourd'hui, hein, c'est un camion destiné à partir à longue distance, c'est pas à faire du régional. Hein, et c'est vrai que ben, quand on voit les dimensions, alors que ça soit sur le sujet papier ou sur la vidéo, on se rend compte des différences de proportions, c'est colossal. Et pourtant, à l'époque, de l'aveu de Monsieur Sanders, quand t'avais ce camion-là, t'étais pas mal loti, t'étais content, t'avais un bon camion, quoi. Donc l'équivalent du XG Plus aujourd'hui.
Oui, alors ce qu'on qualifierait aujourd'hui de rudimentaire, hein, je pense que le mot est très adapté pour le confort du DAF de 1970, tu nous précises dans ton article que pourtant la présentation de la cabine faite en 1962 avait fait totalement sensation.
Ben si on reprend les documents de l'époque, hein, je crois que c'était au salon Rail, hein, c'était un salon qui existait à l'époque en Hollande, c'était vu comme avant-gardiste, très avec beaucoup de visibilité. Et c'est vrai que si on se souvient des camions de l'époque, les Berliers, etc., il y avait plutôt des pare-brises assez restreints, petits et tout, alors que là on a un grand pare-brise, on a une bonne visibilité, on a les vitres latérales avec la custode qui descend, etc. Donc c'était assez avant-gardiste pour l'époque, même si aujourd'hui ça nous paraît tout rudimentaire, mais par exemple, il y avait cette deuxième couchette, il y a une photo qui est marrante dans le magazine, à la page 52, vous avez la couchette du haut, mais qui est bloquée contre le plafond du camion, parce que tu t'aperçois vite que si tu la descends, il faut que le premier se couche avant que le deuxième se couche, parce que de toute façon, il faut sortir chacun son tour. Oui. Alors que tout ça, aujourd'hui, ben, ça paraît complètement surréaliste quand on voit le confort que ben, le XG Plus en est le meilleur exemple, hein. C'est vraiment la cabine la plus spacieuse avec des coffres, le rangement, etc. Et on s'aperçoit que sur ce 2006, ben, il n'y avait rien de tout ça et pourtant les gens étaient très contents de rouler avec ça à l'époque.
Olivier 18 nous écrit, salut Sebamax, Nicolas, Fabien, étaient deux insolites du acolyte du soir, Marielle et Hervé. Moi j'aurais aimé conduire dans les anciens camions des Berliers ou encore des Scania Nélon. Je garde précieusement le témoignage pour la seconde partie tout à l'heure. Et puis on a Natouche aussi qui nous a écrit ce soir. Bonsoir Sebamax et toute l'équipe. Elle nous dit, j'ai conduit un camion anglais, un Foden 6x4, boîte Fuller. Ça a été mon premier tracteur pendant un an et demi. Une super expérience, mais sans aller aussi loin, j'avoue que je suis très malheureuse de ne plus avoir de boîte mécanique. Sur ce, très bonne soirée à tous et surtout la prudence. Bisous, Natouche. Alors, justement, je voulais qu'on y vienne. Cette fameuse boîte manuelle style années 70, on en parle?
Sur le DAF, c'est pas une Fuller. Hein. C'est pas une Fuller, c'est une ZF, 6 rapports plus les demi, donc ça fait 12. Mais sans synchro, c'est-à-dire que c'est un peu le même principe de boîte à crabeaux sur les Fuller. Donc ça oblige le double débrayage. Alors pour ceux qui ont conduit que des boîtes automatisées, puisqu'aujourd'hui ça devient extrêmement rare d'avoir des mécas, ben, il vous faut d'abord débrayer, clac, t'enlèves la vitesse et tu remets, clac, et tu remets ta vitesse. C'est un petit process dont il faut avoir l'habitude. Mais sur une Fuller dont parle l'auditrice, c'est vrai que si t'es pas au bon régime et si tu te loupes, etc., ben, tu recommences à zéro, quoi, hein. Les Foden, en l'occurrence, c'était souvent un moteur 3406 Caterpillar avec une boîte Fuller. Alors, il y avait plusieurs modèles. Ça pouvait être une 10, une 13 ou une 18, suivant le modèle. Mais en tout cas, c'est vrai que ça demandait de connaître son camion et de changer les rapports au régime. Mais, paradoxalement, une fois qu'on connaît bien son camion, moi, j'ai plusieurs Kenworth, etc., tu débrayes pour passer la première. Enfin, tu embrayes, clac, et après, tout se passe à la volée sans même toucher la pédale de gauche. Parce que quand tu connais ton régime moteur, etc., clac, clac, tu sors ta ta vitesse, tu la renclenches et t'as même pas besoin d'un débris. Et donc oui, paradoxalement, ceux qui savaient conduire des boîtes fulaires étaient pas plus embêtés que ça. Maintenant, quand tu te loupais, il fallait recommencer à zéro. Moi, à l'époque, quand je roulais avec ce type de camion, c'était un très bon indicateur sur ton niveau de fatigue. Quand tu commençais à faire nous, on faisait la National 20, il y avait pas l'autoroute encore, et quand tu étais vers Souillac, Mascaorla, quand tu faisais, que tu avais des montées, des descentes avant de tirer sur Brive et Limoges, quand tu commençais à faire craquer, tu savais qu'il fallait mettre le clignot et aller te reposer un petit peu. C'était un très très bon indicateur.
Voilà, c'est ça.
Que certains ordinateurs aujourd'hui.
Exactement. Ça, pour le coup, c'était le corps qui disait fallait s'arrêter. Ce qui est aussi intéressant, je pense que nos auditeurs automobilistes qui nous écoutent, qui ne sont pas familiers des camions, ils t'entendent parler d'une boîte manuelle avec 18 vitesses. Je pense que là, on en a perdu quelques-uns, en fait.
tout ça a énormément évolué. Il faut voir qu'aujourd'hui, les véhicules, et c'est d'ailleurs le constat, si vous prenez ces deux grands routiers qui ont 50 ans d'écart, un avait la puissance phénoménale de 230 chevaux, et c'était déjà très très bien à l'époque, et l'autre en a 530 juste à côté. Et c'est un petit modèle, puisqu'aujourd'hui, on a des modèles de série qui font 780 chevaux, comme le Volvo, par exemple, on a des grosses puissances, et c'est vrai que ça aussi, c'est paradoxal. Dans l'essai, il y a un truc aussi qui est phénoménal, c'est regarder le couple. Quand tu regardes les couples, alors je ne vais pas tout divulguer, parce qu'il faut que les gens lisent un peu, mais quand tu regardes le couple maxi, il est à 3 chiffres, et quand tu regardes aujourd'hui les couples maxi des camions, au bas mot, tu es à 2500 Nm, et l'autre, on n'arrivait même pas à 1000, pour ne pas péter le secret, mais donc, je veux dire, c'est vraiment deux conduites différentes, mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, notre petit camion de 50 ans, lors de notre essai en Hollande, on était tranquillotes, à 100 à l'heure sur l'autoroute, et puis tu n'étais pas ridicule, ça ne bougeait pas, parce qu'il n'y a pas de limiteur de vitesse, et si tu ne fais pas gaffe, tu t'aperçois que tu es vite à 100. Ouais. C'est ce que disait M. Slanders, il ne fallait pas être pressé dans les côtes. Quand il attaquait les Flandres, les Ardennes belges, etc., il y avait pas mal de passages où il disait, là, évidemment...
Bonsoir Fabien, ça va? Ouais, non, juste qu'on peut peut-être préciser par rapport aux automobilistes qui écoutent et qui sont pas forcément au fait de la conduite d'un camion, c'est qu'en fait les vitesses, il y en a beaucoup, mais tu les passes en fait dans des laps de temps très 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 courts, en fait, c'est ça. Et même les boîtes auto, c'est-à-dire les rapports, ils se passent entre 0 et 10 km heure, quasiment. Quoi.
Généralement, quand on a une forte charge, évidemment, on démarre sur des rapports bas, et c'est la particularité des camions. Pourquoi il y a autant de vitesse? C'est juste pour passer le couple vers les roues et de façon à décoller la charge. Il faut décoller la charge. Après, quand on est sur autoroute, généralement, on a un ou deux rapports, ça varie s'il y a un petit faux plat, mais une fois qu'on est en longue, ce qu'on appelle dans les vitesses longues, ça ne bouge plus. Et notamment aujourd'hui, d'ailleurs, la semaine dernière, j'étais à Malaga pour les essais que vous allez découvrir très bientôt dans France Route, des tout nouveaux, justement, dernière génération de XG, XG+, etc., les nouveaux DAF, et on voit qu'il y a encore une politique de downspeeding, c'est-à-dire réduction des tours minutes, avec un super overdrive ou des couples extrêmement longs pour avoir un régime moteur très bas, de façon à consommer le moins possible lorsque le camion est sur son inertie. Parce que quand on est sur le plat, bien évidemment, on n'a pas besoin de faire forcer, et là, un petit régime moteur avec un régime très bas, d'où une consommation très basse, c'est ce qui contribue aussi à la réduction des émissions de CO2. On voit que le concept même des camions a énormément évolué, et ces 50 ans, c'est juste génial de pouvoir comparer, parce qu'on remet un peu l'église au milieu du village. Tu dis, voilà où on était, voilà où on est maintenant. Alors quand on nous parle de guerre au diesel, etc., on s'aperçoit que là, franchement, les progrès en 50 ans, ils sont colossaux. Et d'ailleurs, je me suis vraiment éclaté à faire cet article, parce que il y a un côté passion inestimable, puisqu'on voit on tape réellement dans le patrimoine, et je pense que je vais réitérer l'opération avec d'autres marques, parce qu'il y a plein de modèles super sympas à essayer. tout à l'heure, un auditeur nous parlait de Berlier. Moi-même, j'ai appris à 16-17 ans à conduire avec un vieux GLR, avec la tricoteuse dessus, etc. Il y avait deux leviers de vitesse. Et ce serait sympa de retrouver des camions peut-être un peu plus récents, mais les TR305 de chez Berlier, ou des camions un peu comme ça, ou des Saviem, un PS30, ouais. Ou des
Ah, les Saviem, ça doit être génial. Les Saviem, voilà, ça doit être génial.
Et c'est vrai que, bon, un PS30, par exemple, ben, ça a tous, enfin, en tout cas, ma génération, on a tous joué avec notre PS30 Saviem en majorette, parce que c'était majorette à l'époque, c'est et ça. On en a tous eu, je pense. Oui. Et moi, je rêverais de faire un essai et de le comparer au tout dernier TI-520 de chez Renault, qui est son petit fils.
Et ben voilà, voilà. Donc, Nicolas et Fabien viennent de faire leur conférence de rédaction pour les prochains numéros de France.
Et vous, alors, j'ai un appel à nos auditeurs aussi. Si vous avez un Saviem PS30 en état de marche, machin, why not? Je suis votre homme.
Et ben voilà.
On arrive et on fait un sujet chez vous. Parce que ça aussi, il y a des trésors cachés chez les gens qui sont des purs passionnés, mais pas forcément férus d'expo ou machin. Je connais des moi-même, j'ai quelques camions de collection et je fais aucune expo avec. Je les ai pour le plaisir. Mais l'appel est lancé. Si vous avez des belles pièces en état de marche, pourquoi pas, parce que je trouve ça vraiment sympa et c'est multigénérationnel, parce ouais. que autant les gens comme moi, ben, on va se rappeler des souvenirs d'enfance, mais c'est quand même génial de faire découvrir à la jeune génération ce avec quoi rouler leurs parents, leurs grands-parents et ainsi de suite. Je pense que c'est une culture partagée.
Et justement, ça fait partie des questions que je voulais te poser après le point trafic, donc je te garde toujours en ligne évidemment. Et vous alors, est-ce que ça vous dirait de conduire un camion des années 1970 ou plus vieux encore, où vous avez eu la chance de le faire, venez nous en parler. Et si vous en avez même une photo, tiens, ça pourrait être chouette. Radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt. Je vous rappelle notre second sujet de ce soir, les abaissements de vitesse sur les routes, sur les agglos qui se multiplient. Dernière en date, le périph parisien, paf, moins 20 km/h. Quel impact sur votre trajet, temps de conduite? Nous en parlerons ensemble. Et avec ce sondage, est-ce que vos temps de trajet continuent d'augmenter sur vos lignes? Sondage à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas. Toujours en compagnie de Nicolas Grumel, mais également de Fabien en ligne avec nous pour parler de cet article très très passionnant hein, sur ces deux DAF comparés à 50 ans d'écart. Cette CIV également participe, il nous dit « Salut Sebamax et à toute l'équipe, alors j'ai commencé à rouler en Renault Major et DAF 95 ATI, la bonne roulade à tous les fadas, moi en tout cas, ça me manque de passer les vitesses. » Fabien, ce qui est intéressant dans ce message, c'est que les plus jeunes là, qui prennent la route, ils ont 18, 19 ans là, après l'école, ils n'auront jamais connu ces camions avec les boîtes manuelles. Est-ce que on perd un peu de plaisir de conduite, comme on le dit souvent, lorsqu'on est en boîte automatique?
C'est différent, je pense que, alors, évidemment, si tu me demandes à moi, je vais te dire, moi, donne-moi une fulaire, je serais heureux, mais je pense qu'on peut pas dire c'était mieux avant, évidemment, ça enlève certaines sensations, ça change le truc. Maintenant, il y a quand même un constat qui est net, alors suivant le trafic que l'on fait, mais moi, il m'arrive encore de conduire de temps en temps des camions manuels. À la fin de la journée, t'es quand même un peu plus fatigué qu'avec une boîte automatisée, hein. c'est une évidence, hein, parce que c'est quand même une assistance. Alors c'est vrai que les jeunes n'ont quasiment pas connu, parce qu'aujourd'hui tu n'as plus aucune obligation de passer ton permis avec une boîte manuelle comme avant. Il faut savoir que les boîtes réellement automatisées ont démarré dans les années 2000, hein. C'est les MAN notamment avec la S-tronic au tout début, en mars de 2000 on a présenté les premiers modèles, et au début je me souviens c'était hyper marrant parce que à l'époque j'étais pilote MAN, et quand on te posait, je faisais pas mal de trucs avec MAN, et on te disait ouais moi j'en veux pas des boîtes Toto, t'entendais ça, tu vois, ben c'est nul, j'ai un peu l'épisode du camion électrique aujourd'hui, tu vois, on en reparle dans 20 ans, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et on te dit non, le boîte main. Et aujourd'hui, 99% du marché, ce sont des boîtes automatisées. Et attention, ça ne veut pas dire que ce sont des boîtes automatiques, parce que ça aussi, il y a une méconnaissance des termes. Boîte automatique, c'est une boîte Allison, qui est en gros un convertisseur hydraulique qui fait passer des rapports. Les boîtes auto d'aujourd'hui, c'est des boîtes manuelles, mais dont le passage est robotisé. Et franchement, la précision des boîtes de vitesse actuellement et la rapidité des passages de rapport, je peux vous dire que c'est bien plus performant que n'importe quelle boîte manuelle d'antan, même avec un très bon chauffeur. Donc, il faut vivre avec son époque. C'est intéressant peut-être pour les plus jeunes d'au moins une ou deux fois l'essayer, parce que ça peut être marrant. Mais bon, ne revenons pas sur le passé. Vous savez, même les Américains qui sont très conservateurs et où il y avait l'histoire, les boîtes Fuller, machin, t'es un homme si t'as une boîte Fuller, si t'as une boîte auto, t'es... Bon, mais aujourd'hui, le marché américain, si vous analysez les chiffres, il n'y a même plus, allez, il y a 20 à 30% des camions neufs qui sortent en boîte manuelle. Même le pays le plus réfractaire à la boîte automatisée, ben, ils y sont passés comme les copains. Donc, je veux dire, à un moment, il faut vivre avec son époque. Et c'est sympa de faire des retours dans le passé, parce que c'est un clin d'œil, mais au quotidien, très franchement, moi, j'irai pas rouler en DAF 2006. Hein,
Fabien, d'ailleurs, à la louche, par rapport à ce que tu disais avant le point trafic de 21h30, est-ce qu'il reste encore beaucoup de camions de plus de 50 ans capables de circuler et surtout qui en ont le droit?
Malheureusement non. Et tu vois, je parlais de Saviem, de Berlier et tout ça, le plus gros... ce qui est un drame pour moi, c'est que la plupart de ces camions sont partis à l'export, notamment beaucoup en Afrique. Et par exemple, aujourd'hui, avoir un Berlier GBH 280, GLR, ben c'est des pièces extrêmement rares qui ont quasi disparu de notre paysage. Si on va un peu plus près de nous dans le temps, ne serait-ce que des Volvo F88, F89, même des F10, des F12, les premiers Volvo, les 141, 111 de chez Scania, ben, il n'y en a quasiment plus, ou en tout cas plus en état de vraiment rouler. Alors oui, certains collectionneurs et certains passionnés mettent des grosses sommes d'argent pour en restaurer certains, mais c'est vrai que ça se fait extrêmement rare. Il y avait un hors-série il y a quelques années que l'on avait fait dans France Route, et j'avais eu la chance de conduire dans la même entreprise trois générations. De mémoire, on était sur un 141, un 143 et un 144 de chez Scania, et on voyait au fil des décennies l'évolution des véhicules, et c'est vrai que c'est génial de pouvoir voir ça, essayer ça, mais soyons francs, il n'y a pas beaucoup, ou en tout cas c'est des vraies pièces de musée. Et alors heureusement, il y a quelques associations, quelques rassemblements, il y en a eu encore un ce week-end où on met en avant des vieux camions sur National 7, etc. Et je dirais que tant mieux, parce que c'est vraiment l'âme du truc. Et je vais même vous avouer un truc, moi j'ai des camions de collection et j'ai jamais le temps de rouler avec, mais mon rêve, mon kiff, ce serait justement de participer comme ça à un tour avec plein de potes qui en font, d'ailleurs, je pense à la famille Fréré, à Leloup, à plein de copains qui font, mais il faut que je m'oblige à faire ce genre de truc, parce que je trouve carrément génial de pouvoir se rassembler comme ça entre purs passionnés et voir des belles pièces, parce que dans ces rassemblements, il y a vraiment des pièces exceptionnelles. C'était marrant parce que tu vois, j'étais dans le camion et je trouve cette carte de France, ce petit guide Michelin là, c'était juste génial, parce qu'il y avait les routes de l'époque, et tu t'aperçois d'ailleurs qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'autoroutes à cette époque-là. mais en tout cas, en France, on a quand même une institution qui a noté pour les vieux camions, c'est la Fondation Berlier. On a la chance, on a ce patrimoine. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer M. Berlier, de manger avec lui avant sa disparition, et cet homme était au-delà du papy de tout le monde dont on aurait tous rêvé, si tu veux. C'était un monsieur d'une culture et d'une gentillesse et d'une passion communicative exceptionnelle, avec son assistante Monique qui est toujours là. Mais on a quand même, si un jour vous avez l'occasion, allez visiter la Fondation Berlier, parce qu'il n'y a pas que d'ailleurs des Berliers, il y a d'autres marques restaurées, et on a quand même en France la chance d'avoir pas mal de belles pièces. Il faut les conserver et il faut vraiment soutenir toutes ces associations qui sont souvent des bénévoles qui restaurent à temps perdu ces véhicules. Et franchement, c'est juste génial. Parce
tu as oublié les Bonifay
Monsieur Bonifay, qui est un collectionneur.
Et qui vient dans les rassemblements.
Ah oui, au Grand Prix du Castellet, avec des dizaines de camions.
Je vais vous raconter une anecdote. L'autre jour, je me suis arrêté par un policier municipal pas très intelligent, mais bon, depuis, il n'est plus là. Donc, ce que je veux dire, il a été muté. Tellement il était intelligent, il a été muté.
Je croyais que tu l'avais.
Non, il est enterré, mais comme d'habitude. Et j'avais une épave dessus. Sur mon porte-char, j'avais un vieux 142 Scania, mais vraiment en état pitoyable. Et le mec me dit, qu'est-ce que vous faites? Où vous allez? Bah, c'est chouette. Bon, j'avais envie de dire déjà que ça peut te foutre. Premier truc, je faisais rien de mal, donc je décharge ce camion qui était non roulant, et il dit, mais ça va à la ferraille, ça. Ben, j'ai dit, mon cher monsieur, si vous aviez un minimum de culture de l'automobile, plutôt que vos pensées restrictives, j'ai dit, ça va être restauré, et un jour, ça roulera à nouveau. Parce qu'il y a heureusement des gens qui sont un peu plus ouverts d'esprit, et ce vieux camion, qui en effet assez mal en point, reverra le jour. Et je l'invite aujourd'hui à venir se voir ce même camion, après des heures, des centaines d'heures de travail, le camion il tourne comme une horloge, et ce qui était que, selon lui une vieille merde, destinée à la ferraille, bien aujourd'hui, c'est un vrai beau camion de collection. Et voilà, et ces gens-là, ils devraient respecter le patrimoine, parce que comme ben, on a des patrimoines magnifiques en France, avec les bâtiments, les châteaux, etc., on a aussi de beaux spécimens automobiles, et il faut le respecter. C'est important.
Alors du coup, moi je voulais je vais te garder encore un petit peu parce que j'avais pas fini mes questions, puis j'ai les réactions des auditeurs, et mais on aura une interview aussi juste après le point trafic de 21h45. Alors je te garde encore un petit peu. Tu fais quelques minutes supplémentaires, Fabien. Voilà, t'inquiète pas. Et avant de retrouver Fabien et Nicolas, bonsoir Jean-Christophe.
Bonsoir Sébastien.
Jean-Christophe Limousin, directeur de Technotrans, qui ouvre ses portes demain à Nantes, et ce pour 3 jours. Merci d'être avec nous. Un salon qui a lieu tous les 2 ans en alternance avec Solutrans à Lyon. Pour commencer, quels sont les premiers objectifs de Technotrans qui fête cette année sa 20e édition?
Alors, on va essayer de souffler la 20e édition avec des bougies et 8000 visiteurs. C'est notre objectif que nous sommes fixés.
Ah oui, quand même, voilà, 8000 participants, c'est énorme. Cette année, vous avez d'ailleurs fortement augmenté la capacité d'accueil des exposants.
Oui, on est passé de 12 à 15 000 mètres carrés d'exposition et de 130 à 170 exposants. Donc on a développé le salon sur un deuxième hall au parc des expositions de Nantes, et on en est assez fiers.
Ce sera quoi les thèmes de cette année?
Alors cette année, en fait, on va relever les 4 défis majeurs qui se présentent aux entreprises de transport, à savoir la décarbonation, la mobilité durable, les questions d'attractivité, d'emploi et de formation. On va aussi parler de digitalisation de l'entreprise et du transport. Et puis enfin, dans un dernier axe, on va parler aussi de logistique urbaine. Donc tout ça autour d'ateliers, de conférences et bien évidemment nos 170 exposants qui vont présenter des solutions innovantes dans ces 4 sujets.
4 trophées RSE seront décernés, Jean-Christophe, cette année aux acteurs du transport pour leurs idées innovantes dans les catégories durables, équitables, inclusifs et coup de cœur de l'inspiration. Moi, c'est cette dernière catégorie qui m'a interpellé. Coup de cœur de l'inspiration, c'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que, alors effectivement, vous avez raison, on va remettre des trophées sur la thématique de la responsabilité sociétale des entreprises, parce que je pense que le secteur n'a pas à rougir des innovations et des engagements qu'il prend sur ces domaines-là. Et il nous a semblé toujours intéressant de pouvoir mettre encore un peu plus en haut de l'affiche une initiative coup de cœur. C'est un peu la palme d'or de Technotrans, finalement, quoi. Donc, surprise, ça sera demain à 16h30.
Alors, parmi donc les thèmes de cette année, vous avez mis aussi l'évolution des métiers dans le transport de manière générale.
Oui, c'est ça. Alors pas seulement, même si 80% des emplois dans les entreprises de transport sont des emplois de conduite, il faut pas oublier aussi les emplois support, les emplois d'exploitation, les emplois aussi autour de l'entretien des véhicules utilitaires. Donc beaucoup d'entreprises font énormément d'efforts, des initiatives intéressantes sur la marque employeur, et il nous a semblé intéressant de pouvoir notamment de mettre en avant la charte des ambassadeurs de l'emploi qui est portée par l'AFT.
Eh bien écoutez, un grand merci Jean-Christophe pour cette présentation. Jean-Christophe Limousin, directeur de Technotrans, qui ouvre ses portes demain à Nantes, et ce pour 3 jours. On vous souhaite une très très belle 20e édition. Bonsoir.
Merci beaucoup, bonsoir.
Les routiers sont toujours aussi sympas avec le magazine France Route, le mensuel des passionnés de camions.
Et nous retrouvons tout de suite Fabien Calvé, Nicolas Grumel de France Route qui évidemment était très attentif à tout ce qui vient de se dire. Mais moi je voulais
surtout j'y vais moi. Demain matin.
Eh, t'as vu Fabien, il passe son temps à se balader, Nicolas. Ouais. Hein, franchement, hein, ça, on n'a pas idée. Hein. Hein.
Bah, j'essaie de courir après Fabien, mais j'y arrive pas.
C'est plus dur.
Bon, j'arrive au premier rapport, deuxième rapport, troisième rapport, mais à partir de la sixième, j'ai un peu de mal.
C'est ça.
C'est l'overdrive qui te manque.
C'est l'overdrive.
Voilà, c'est ça.
Alors moi, je voulais aussi qu'on revienne sur ce qu'on discute depuis tout à l'heure, évidemment, avec cette comparaison entre ces deux DAF, mais tu te doutes bien que je ne vais pas te laisser partir comme ça sans te demander ton point de vue sur notre seconde partie de ce soir, les abaissement de vitesse qui continue de proliférer, notamment sur des grands axes et autres périphrocades et contournements. Par exemple, parce que je suis vraiment très nul en maths, sur 10 km parcourus, un abaissement de 20 km par heure pour un conducteur routier, c'est un temps de trajet augmenté de combien en moyenne ?
Alors, je ne saurais pas dire exactement combien ça va augmenter, mais le fait est c'est qu'en réduisant certains passages et parfois sur des longues distances, hein, parce qu'en camion, il y a même des zones où on est limité à 70 au lieu de 90 sur pas mal de rues, tu augmentes obligatoirement le temps de parcours et des lignes qui peuvent être faites à un certain délai et temps, et notamment je pense aux expressistes la nuit où c'est quand même calculé pile poil, quoi, hein, le fait de rallonger un trajet de 10 minutes, voire un quart d'heure, peut vite avoir une incidence sur ton temps de conduite et tes temps de repos. Donc, certes, si on parle du périph' parisien, ça ne va pas changer la face du monde pour ceux qui font le reste de la France, mais ceux qui travaillent au quotidien, je pense que ça peut vite, alors pas en journée, hein, parce que tout est bouché, donc ça ne change pas grand-chose, mais en tout cas, la traversée de Paris, si tu es obligé de la faire à 50 au lieu de 70, tu vas vite perdre 5-10 minutes sur ton trajet sans aucun problème. Et ça, malheureusement, ça aura une incidence, et si ce n'est pas répercuté sur le calcul de la tournée, obligatoirement, ça pourra entraîner des infractions à la fin. Donc, je ne sais pas. Et en plus, très franchement, il faut voir le bien fondé de tout ça, parce que si on nous parle d'écologie, là, c'est purement une foutaise. et si c'est plus pour avoir des flashs plus souvent ou des ressources financières différentes, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Parce que, bon, dans la journée, de toute façon, réduire à 50 ou à 70, le peu que j'avais à Paris, de toute façon, on n'y roule pas. À 50, on est à 70, donc ça ne change pas grand-chose.
Alors, je peux t'assurer.
Moi, quand je vais rentrer de l'émission, je vais prendre le périphérique, Fabien. Et je pourrais rouler à plus de 50 km/h.
Oui, c'est pareil.
Je te l'assure.
Oui, la nuit, on peut rouler à 70, mais c'est vrai que pour l'avoir aussi essayé à 50, j'ai vécu de grands moments de solitude. Voilà.
Le principe d'un camion, lorsque ces gentils politiciens, qui sont adorables, hein, tous aussi bons les uns que les autres, mais s'ils comprenaient qu'un camion qui roule à 50 ou 70, il ne va pas polluer plus ou moins, il est juste pas sur le même rapport de vitesse, mais son régime moteur c'est le même. Donc, je veux dire, le mec c'est un idiot qui a inventé ça. Je veux dire, il y a pas. Si c'est sur la question de la pollution, ce pauvre monsieur ou cette pauvre dame, parce qu'à l'occurrence, il semblerait que ce soit une dame.
C'est une dame avec un monsieur. Voilà, qu'il y a l'adjoint au maire chargé de la circulation qui.
Si c'est pas à mettre sur le compte de la pollution, c'est une absurdité totale. Ouais. En tout cas, pour un camion, le régime moteur reste le même. Donc, je veux dire, à un moment, ta vitesse, au contraire, tu vas rester plus longtemps au même endroit. Donc, je veux dire, à un moment, voilà. Je pense qu'on est sur de faux débats instrumentalisés par des gens qui comprennent pas grand-chose ou en tout cas qui essayent de nous infliger une idéologie là, qui est complètement aberrante. Mais bon, ça c'est
encore un autre.
Question à moi, je ne vais pas être politiquement correct.
Oui, mais ça, c'est autre monde. En même temps, ce n'est pas grave. Moi, je voulais juste.
Si tu veux, Sébastien, c'est l'ignorance qui me chagrine. Alors, quand tu regardes les émissions polluantes, que le véhicule 50 ou à 70, c'est juste le rapport de la boîte de vitesse qui n'est pas le même, mais le régime moteur est exactement le même. Donc, je veux dire, il ne faut pas dire de bêtises.
Alors, juste avant qu'on termine, parce que je voulais vraiment revenir sur un message d'un de nos auditeurs en lien avec notre premier sujet de ce soir, c'est Franck de Toulon qui nous a écrit « Salut Seb et toute l'équipe, mon premier camion a été un Fiat unique 340 V8 avec une boîte Fuller et tu dois voir une photo, Seb, du camion de mon père, un DAF dans les années 60, un camion remorque qu'il allait jusqu'en Russie avec amitié Alain 13, à Petit Gibus et Filtre. Moi, c'est le mot Fiat camion qui m'a perturbé. Ouais. »
Non, mais il y avait, c'était, avant c'était Fiat, après ça a été unique, et la jonction des deux a fait Iveco, hein, avec OEM, mais c'est Fiat, il y avait des camions Fiat, et il y avait des camions uniques en France, et c'est le mariage du franco-italien, enfin, qui a donné naissance au groupe Iveco, mais il y avait des camions Fiat, et il y avait même, à l'époque, en Italie, des camions Fiat avaient la conduite à droite, parce que comme on était dans des zones montagneuses, en Italie, on conduisait de façon à être le plus près, au lieu d'avoir la conduite à gauche sur certains camions, tu avais la conduite à droite, de façon à être le plus près du précipice pour ne pas tomber. C'est okay. difficile. Mais il y a eu des camions Fiat, dont dont il parle, le V8 dont il parle, je connais, j'ai conduit, ça je peux dire, j'ai fait. Ouais. Ça c'est bon, validé. Et y a, dans le mariage, j'ai oublié, excusez-moi, terrible affront, la marque Magirus, en effet, qui est aussi patrimoine du groupe Iveco.
Bon ben, j'attends avec impatience.
Qui est en vente au passage. Hein.
Et moi j'attends avec impatience l'arrivée d'un camion Dacia. Voilà, bon ça c'est un truc personnel.
Le camion Dacia, si on regarde
il existe
aujourd'hui,
déjà.
Alors, il n'est pas de marque Dacia. Mais le concept de camion low cost, mais qui est monté en gamme, je veux dire, c'est très bien ce qu'on pourrait... aujourd'hui, quelle est la voiture la plus vendue? C'est des Dacia, aujourd'hui, parce qu'elles sont en rapport qualité-prix, c'est des très bons trucs. Et aujourd'hui, tu regardes les camions Ford, qui a souvent été comparé en moquerie à une Dacia, mais aujourd'hui, c'est un super rapport qualité-prix. Et je veux dire, le phénomène Dacia, ce phénomène low cost qui est arrivé dans la voiture, arrivera dans le camion. Prenez notre dernier numéro de France Route avec le salon IA et vous découvrirez ce qu'on a appelé l'ombre chinoise. Hein, c'est un sujet qui va arriver très prochainement. Vous allez voir qu'on va y arriver très vite à ça. Ouais.
Et ben en tout cas, un grand merci Fabien d'avoir été avec nous pour parler de cet article, pour parler de notre second sujet de ce soir. C'était passionnant, tellement passionnant que j'ai même pas vu l'heure passer pour tout vous dire. un grand merci Fabien. Puis nous, on se reparlera la semaine prochaine. Il sera question d'un grand prix.
Deux fois même, le lendemain aussi.
Le lendemain aussi. Voilà, on se reparle toute la semaine prochaine, nous. Merci beaucoup, Fabien.
21-22.
Vous faites des cachotteries comme ça.
Merci beaucoup, Fabien. À bientôt.
À bientôt. Bisous à tous. Ciao. Ciao.
Et nous sommes ensemble, comme chaque soir, jusqu'à 23h pour votre rendez-vous du soir. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre en direct.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir.
Émission avec notre partenaire France Route, toujours avec Nicolas Grumel, l'immense Nicolas Grumel, rédacteur en chef du mensuel. Est-ce que bientôt trottinette et vélo iront plus vite que camion et voiture en agglo? Nous allons parler des abaissements de vitesse qui se multiplient sur notre territoire. La dernière en date a été cash. Entre le 30 septembre et le 1er octobre, paf, moins 20 km par heure sur le périph' parisien. Y a-t-il un réel impact sur vos temps de trajet et de conduite? Parmi les raisons évoquées, la pollution, mais aussi l'accidentologie. Qu'en pensez-vous? En tout cas, le périphérique parisien à 50 continue de faire réagir. Nous en parlerons avec toi, Nicolas, dans un instant. Et avec tous nos auditeurs, radio177.fr, quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur « Envoyer un message ». Et vous pourrez nous écrire directement dans ce studio. Et puis, vous pouvez continuer de réagir à notre premier thème de ce soir. Avez-vous déjà conduit un camion ancien ou aimeriez-vous? Non, c'est pas du tout ça que je voulais lancer, mais c'est pas grave. Voici Yves Cara et on se retrouve juste après. Sylvain Dio, la Dream Team, il nous dit que la prochaine étape sur le périphérique, ça sera les dodanes.
Ouais.
Hein ?
Oui, en fait, il croit pas si bien dire. Hein,
voilà, parce qu'en fait, monsieur.
Mais non, mais parce que j'y réfléchissais pendant que Fabien parlait, mais La mairie de Paris, son objectif, c'est pas juste d'abaisser à 50, c'est de faire du périphérique un boulevard urbain.
Oui, mais on a déjà le boulevard des Maréchaux pour ça.
Oui, mais il y en aura deux.
Voilà. Ah, d'accord.
L'objectif, c'est de mettre des feux rouges après, de faire des carrefours pour que le périphérique devienne... pour arrêter là, que le périphérique soit une rupture entre Paris et la banlieue. Ce qui n'a pas beaucoup de sens en termes de circulation, parce que le périphérique est emprunté surtout par des banlieusards qui vont de banlieue à banlieue ou qui passent par Paris, mais très peu en fait. Et donc c'est là le problème, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a un écart entre ce que veut la mairie. La mairie, on le rappelle, est élue, le maire de Paris, enfin la maire de Paris actuellement, est élue par des Parisiens, donc à l'intérieur du périphérique. Et ceux qui l'empruntent, en majorité, ce sont des banlieusards, ce ne sont pas les électeurs de Madame Hidalgo. Donc en fait, c'est là qu'il y a un souci. Quoi.
D'où le fait que l'État ait aussi son mot à dire normalement là-dedans.
Il n'a pas dit grand-chose en l'occurrence.
Oui, et on va y revenir. Sondage, on voit qu'il n'y a pas un oui massif, hein, comme quoi ça fait augmenter vos temps de trajet. On est quasiment à 60% pour le oui, 40% pour le non. Hein. Vous ne constatez pas forcément une hausse de vos temps de trajet. On continue de parler de ces abaissements de vitesse. Ludovic qui nous dit « Hello mon cher Sebamax, hello monsieur France Route, hello à tes deux copilotes. Ce soir, parlons des diminutions, des limitations de vitesse. Je trouve ça nul à bip, soi-disant, pour faire moins de pollution ou fluidifier le trafic. Je pense que beaucoup de personnes rouleront comme d'habitude. Déjà, nous, par rapport à nos temps de conduite, le fait d'être à l'heure chez le client, ça y joue beaucoup. À force de réduire les limitations, on va pousser nos véhicules. Mais bon, après, ce seront les salles de sport qui mettront la clé sous la porte. Bref, toujours pour embêter les usagers de la route. Un coucou à Nani Louloute, un coucou Fada du bitume. Hashtag respectons-nous les uns les autres. Hashtag octobre rose. Hashtag une heure de plus. Soyons fous du dimanche au lundi. Bien sûr. Voilà. J'allais te le dire. Merci Ludovic pour ce témoignage. Guillaume nous dit, Nicolas, Marielle, Hervé, vous êtes prêts pour le témoignage de Guillaume ?
Allez, on est parti.
Bonsoir Sébastien, moi je pense que Anne Hidalgo devrait détruire le périphérique et creuser des douves avec un pont-levis à chaque point cardinaux. Ainsi les gueux et Manon ne rentreront plus dans Paris et retournent de la charrette à bœufs. C'est ça. Merci Guillaume. Alors pardon Nicolas, il y a l'Union TLF donc d'Île-de-France qui a vertement réagi face à cette décision de la mairie de Paris, mais qui a fait une proposition. Alors est-ce qu'elle est faisable ou envisageable, ça je ne sais pas, mais qui propose d'abaisser de 19h à 7h, enfin d'augmenter pour le coup à 70, c'est-à-dire faire 7h-19h à 50 et 19h-7h à 70. Est-ce que c'est envisageable et réaliste?
Ben c'est techniquement envisageable, hein. Il suffit d'avoir des panneaux à message variable de changer les indications aux heures dites. Après, ça complexifierait quand même sacrément les choses, hein, parce que s'il faut regarder sa montre tout le temps pour conduire, enfin je veux dire... Bon, c'est un peu compliqué quand même. Et puis surtout, après, c'est le contrôle de la vitesse qui pose question. Est-ce qu'on peut dérégler les radars, enfin les régler...
Selon les horaires.
Théoriquement, ça doit être possible, mais il doit y avoir quand même un cadre légal qui est réglementaire qui ne serait pas respecté. Enfin, je pense qu'il y a quand même il faudrait changer le code de la route pour faire ça, je pense. Mais c'est surtout... c'est surtout assez compliqué. Moi, en tant que usager de la route, ce qui me pose problème, c'est quand on a sur une même portion de 4 voies, par exemple, une limitation de vitesse qui change sans que ce soit intuitif. Parce que, par exemple, on rentre dans une commune, donc on passe de 90 à 70, et puis on s'en est pas forcément rendu compte quand on rentrait dans la commune, parce que il n'y a pas eu une rupture de voie de charge, oui. C'est-à-dire que on est toujours sur la même autoroute et puis hop, on est la vitesse a changé. Et ça, en France, on est spécialiste de ça. Il y a des changements de vitesse très très régulièrement, quoi.
Et ben,
c'est ça qui pose un peu problème et qui nous induit en erreur. Après, bon. Moi, j'étais plutôt favorable au maintien du périphérique à 80 km/h, hein, parce que c'était quand même. Voilà, c'était bien déjà. Mmh. Bon, après, c'est passé à 70 il y a 10 ans, maintenant c'est à 50. Mmh.
Bientôt en zone 30.
Ouais, bientôt zone 30. voilà, au revoir mon périphérique. Hein. moi, le périph, c'était. Il y avait une poésie du périphérique. J'ai du mal à faire comprendre ça à tout le monde, mais. Ouais. J'aimais bien, de temps en temps, faire un petit tour de périph.
En fait,
voilà.
Hervé Améry, faire des motards, tours de rond-point.
Qui parle. Ouais, moi j'ai fait des tours de périph. Et
Nicolas, faut qu'on parle après l'émission. Il y a un canapé devant le studio, non, mais, faut qu'on parle.
Je suis sûr qu'il y a des auditeurs automobilistes ou motards, enfin auditeurs motards ça va être difficile, mais automobilistes...
qui font de la moto.
Ou routiers qui me comprendront.
Mais,
quoi,
non mais je suis d'accord.
Il y a des routes comme ça avant, quand on était un peu plus libre sur la route, qui avait un certain attrait, quoi. Il y avait des portions de route comme ça qui Il y a eu le Prince Noir, hein, sur le périphérique. Le Prince Noir, c'est... Bon, moi, je dis pas qu'il fallait faire ça, hein. C'est complètement... c'est assez grave, ce qu'il a fait. Mais quand il a fait à moto... Le périph' en 11 minutes, quand même.
Oui, alors ne donne pas de mauvaise idée sur cette antenne, on pense sécurité routière.
Je veux dire, c'est pas, je dis pas qu'il faut le faire, mais je dis, voilà, il y a une époque où il y a eu ça. Bon, après,
Alors pour ceux qui sont habitués de la traversée de Limoges, pour le coup, ça va pas vraiment concerner, en tout cas pas pour l'instant, les conductrices et conducteurs routiers, quoique. Pareil.
Je la connais bien, l'autoroute.
Axel nous dit pareil pour Limoges, où la DIRCO la va baisser et étendre dans toute la traversée de Limoges sur l'autoroute A20 la vitesse de 110 à 90 km/h. Inutile d'après moi. Prochaine étape, mettre l'autoroute en zone 30. Alors je dis que ça concerne pas directement les conductrices et conducteurs routiers. Alors si, parce que dès qu'il y a des abaissements de vitesse comme ça et que globalement tous les usagers sont à la même vitesse, il y a quand même quelques complications certaines et au sein, on en a déjà parlé dans l'émission. Merci Axel pour ce témoignage, hein, ça vous fait forcément réagir. Hein. Ce soir, Stéphane dit Steph86, bonsoir Sebamax, bonsoir Marielle et bonsoir Hervé, bonsoir Fabien. Très belle chanson de Michel Mallory, nous dit sinon pour le thème. Et oui, les temps de trajet s'allonge, mais les clients ne sont pas forcément au courant et donc on se fait recevoir. Bon, question d'habitude, mais on fait avec. Sinon, Seb, je te verrais bien au volant du vieux DAF, même si tu avais déjà des soucis pour passer les vitesses d'une certaine 4L. Les bons chiffres à toutes et tous et la prudence, hashtag respectons les routiers. Parce qu'on m'a fait essayer une 4L. Et passer les vitesses dans une 4L quand on n'a pas l'habitude, c'est quelque chose. Je sais pas si Hervé, Marielle, vous avez déjà conduit une 4L.
Oui, c'est puis comme ça, au tableau de bord.
Ouais, c'est
levier est au tableau de bord.
Oui, quand on n'a pas l'habitude, c'est quelque chose. Du coup, après, j'ai décidé, c'était sans les mains. J'ai cru que c'était une voiture autonome. Donc, voilà.
Et t'as pas essayé le Toyota Yas non plus, les premières versions.
Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur?
Avec les vitesses au volant aussi, pareil.
Ah, les vitesses. Mais ça existe encore aux États-Unis, ça, non? Je crois. Non, ça n'existe pas encore, ça. Aux États-Unis, Hervé?
Ah, je sais pas, non, mais moi je parlais d'expérience, donc le Toyota Yas, les premières versions, il fallait passer les vitesses au volant, la 4L, effectivement, c'était au tableau de bord, mais c'était sympathique, ça.
Ouais, c'était une autre période de faire de la route. Mais moi j'aime bien ce que tu dis sur... alors tu nous parles de tour de périph, on en a souri, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont leur petite portion de route qu'ils aiment bien faire. Je pense qu'on est tous pareils quand on aime bien conduire. Hervé, c'est les ronds-points. Toi, c'est le périph. Marielle, c'est quoi?
Je vais cueillir des pâquerettes.
En voiture, d'accord. En fait, Marielle, elle est sur le bord. Elle roule à 5 km/h et puis elle reprend les pâquerettes en même temps qu'elle est.
Portière ouverte.
Voilà. Marielle aussi, il faut qu'on parle. Vraiment, si, j'insiste. Hein. Si, vraiment. On va continuer de parler de tout ça, évidemment. Et puis, quelques messages qui nous sont parvenus sur notre premier sujet. sujet de ce soir. Thierry qui nous dit, bientôt les ronds-points sur le périph' à Toulouse, toujours à 80 km/h pour nous routiers. Oui, parce qu'en plus, il y a certaines routes où il faut être très attentif parce qu'il y a des vitesses limitées pour les poids lourds et des vitesses limitées pour les voitures, ce qui n'est pas sans créer quelques petites difficultés de compréhension des fois. Et pour le constater de moi-même, je pense à la francilienne avec sa portion A104 où là, effectivement, c'est à 90 pour les voitures, mais à 80 pour les poids lourds. Mais les automobilistes, des fois, ne font pas très attention au petit pictogramme qui est en dessous du panneau. Donc, ça crée aussi là quelques difficultés. Allez, la suite de vos témoignages dans un instant. On continue d'en parler avec Nicolas. On verra si s'il a d'autres rocades comme ça qui lui plaisent. On lui posera la question. Les abaissements de vitesse sur les routes, sur les agglos qui se multiplient. Dernière en date, le périph parisien. Paf ! -20 km/h. Quel impact sur vos trajets temps de conduite? Nous en parlons ensemble. Et avec ce sondage, est-ce que vos temps de trajet continuent d'augmenter sur vos lignes? Il est à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook Les Routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus ensuite. Et pour l'instant, c'est le trafic. Il me semble qu'à Nice aussi, il y a eu des abaissements de vitesse, je crois, non ? C'est pas passé à 70 ou quelque chose comme ça, non ?
Alors là...
C'est la colle.
Je ne saurais pas répondre, parce qu'il n'y a pas eu récemment, mais il y a des... par exemple, la promenade des Anglais est à 50 km/h, ça c'est... mais ça fait un petit moment déjà. Ouais.
Non, mais c'était sur la 8, il me semblait
sur
que...
Sur la 8, il y a effectivement, quand on pénètre, on passe du Var aux Alpes-Maritimes, il y a eu un abaissement à 110 km/h, parce qu'auparavant il y avait des tronçons qui étaient restés à 130 km/h, et finalement tout a été ramené à 110 km/h, et notamment des gens qui arrivent du Var où c'est déjà à 110 km/h au niveau des adrets, dès qu'ils voient le panneau Alpes-Maritimes, ils appuient sur le champignon, mais c'est toujours 110.
Voilà, donc attention, souriez, vous êtes photographié. Julien qui nous écrit d'Amérique du Nord, qui nous donne de ses nouvelles. Bonjour la forme pour le sujet du jour. L'affaire de l'abaissement de la vitesse sur le périphérique est ridicule. Cela ne va rien changer pour la pollution et les accidents. Je pense que les... Je ne sais pas si je dois dire la suite. Je pense que les lignes blanches ne sont pas que sur les routes, mais aussi dans le nez de certaines personnes à la mairie de Paris. Prochaine étape en marche arrière en Amérique du Nord. Bon, c'est joliment dit. C'est pas c'est dit avec tact. Prochaine étape en marche arrière, nous dit-il, en Amérique du Nord. Eux, ils font l'inverse. En Amérique du Nord, ils augmentent les limitations de vitesse, il nous dit. Et il nous dit pas plus d'accidents. À Cincinnati, en Ohio, direction le Tennessee. Bonne soirée à tous. Julien, il manque une info importante à Marielle. Il manque une info importante. La température.
Eh oui.
Manque la température, Julien. Attention, Marielle ne va pas être contente. Sinon, alors moi, je pense que la limitation de vitesse la plus surprenante que j'ai pu voir, je crois que j'en ai déjà parlé à l'antenne, c'est dans la rade de Lorient. Il y a un panneau, interdiction de dépasser 7 km/h.
Ah oui, d'accord.
Voilà, interdiction de dépasser 7 km/h.
Ah bah là, t'es en première, là, tu marches.
Non, je te dis, à 7 km/h, tu marches.
Hein. Ah, c'est la vitesse d'un sous-marin.
Vous avez déjà vu des panneaux de limitation de vitesse un petit peu bizarres, vous aussi, Hervé? Vous, dans votre coin, doit y avoir des trucs un peu bizarres par chez vous?
Non, des fois, ils se trompent sur l'adjectif, parce que, par exemple, dans le village, on doit rouler lentement, et ils ont mis des panneaux rouler doucement. Alors, du moment qu'on ne fait pas de bruit, on peut rouler à 130. mais c'est lentement qu'il faut aborder.
Autour de chez Hervé, il y a un panneau avec un escargot dedans.
C'est pour le berlier. Marielle, vous avez déjà vu des panneaux un peu bizarres comme ça?
Il n'y a rien qui me vient, là, mais... Peut-être, certainement.
Marielle ne regarde pas les panneaux.
C'est peut-être pour ça.
Marielle, elle conduit, elle ferme les yeux.
Je vais tout droit.
Je vais tout droit, c'est ça. Alors, pas mal de messages qui continuent de me parvenir. Alors, JP qui nous faisait une jolie déclaration à Fabien, figurez-vous, que je viens de dire, que je viens seulement découvrir, sinon je l'aurais donné tout à l'heure. JP nous dit « Salut Seb et tes copilotes, ainsi que l'immense Nicolas Grumel. » Et sans oublier, ça va rester ça. Hein. Et sans oublier, bien évidemment, l'encyclopédie, que dis-je, le Larousse, le petit Robert, le grand Robert du camion, même la personne dont je suis absolument fan, Fabien Calvé, je pourrais l'écouter parler pendant des heures et des heures, m'endormir avec lui en podcast. Alors ça, c'est une idée. Et quand je vois certaines vidéos sur les réseaux de son fils, notamment la complicité quand Théo descend du camion, ça me renverse. Une petite larme, ce sont de vraies personnes. J'espère qu'il sera encore là pendant de longues années à nous faire découvrir de nouveaux modèles. Quant au sujet du soir, le temps de parcours, pour moi, ça ne change pas. Beaucoup, le périph à 50 à Paris, moi je l'emprunte pas, mais je trouve ça complètement bip. Bref, sur ce, on n'oublie pas le corridor de sécurité, la prudence à tous et à toutes, les bisous du panda. Message également reçu de Valérie sur notre première partie de l'émission, c'est Valérie qui nous a écrit. Bonsoir Sebamax, pour la première partie de l'émission, si Fabien Calvé est intéressé par Volvo, notre patron est collectionneur, les transports d'A Silva à Montigny, le roi, bah je transmettrai en plus, qui plus est, avec la photo Valérie que j'avais eu, je crois, le plaisir de croiser sur l'aire de service de la Vallée de l'Erve sur la 81, c'était le mois dernier, juste avant les 24 heures camion Le Mans. Julien, il nous dit qu'il fait 13 degrés là où il est en ce moment, en Ohio, Ohio. Alors ça le change, hein, parce que la semaine dernière, le 2 octobre, à Springfield, il faisait 26 degrés.
Ah oui,
et grand soleil. Ah oui, ça va de tout au tout, là, en fait, cette histoire. Phil qui nous a écrit également, bonsoir Sebamax et toute l'équipe, tellement d'accord avec ce qu'a dit Fabien, un homme qui sait de quoi il parle, à quand ministre des transports monsieur Calvé. Il va plus y avoir beaucoup de monde au ministère des transports, hein. Ou alors toute l'équipe va changer, hein. je tiens à le dire, hein. Au moins le transport irait dans le sens, dans le bon sens, si on nous imposerait pas des débilités pareilles. Bonne route à tous et toutes. Merci Phil pour cette intervention. Hervé, on le mettrait ministre de quoi, Hervé? Ministre, je sais pas.
De l'infotrafic.
Ministre, ah aussi, ça marche. Marielle, ministre des pâquerettes.
Voilà, voilà. Oui, ça me va. Voilà.
Et ministre du périphérique, Nicolas Grumel.
Nicolas, oui, ça c'est sûr.
Ministre du périphérique, voilà.
Je vais faire des ronds.
Et après, il faudra des ministres délégués pour l'intérieur et l'extérieur.
Voilà, c'est ça. Et pour les portes,
Et pour chaque porte.
Un ministre par porte.
Tu vas nous coûter cher, toi, hein, je te le dis. Avec nos petites bêtises qu'on a racontées là juste avant le point trafic de 22h45, j'ai trouvé une future thématique, les amis, pour l'émission qui devrait bien arriver prochainement. Et c'est même Richard qui me la confirme, cette thématique, c'est les panneaux insolites que vous avez pu déjà croiser sur la route. Parce que alors, je tiens à vous raconter quand même les deux panneaux que Richard vient de nous envoyer. Il nous a envoyé, alors jusque-là tout va bien, là, un panneau de danger, attention, animaux domestiques, donc c'est-à-dire les vaches, les moutons, etc. Et vous savez qu'il y a de marqué en dessous? Ralentir enfant.
Ah ouais.
Et attention, passage d'animaux sauvages, et on voit passer le cerf, hein, dans le triangle, et il y a marqué en dessous sanglier. Voilà.
Ah oui.
Non, je pense qu'on tient un sujet. Je et pense qu'on tient une thématique.
Mais quand ils dessinent les panneaux, il faudrait leur faire passer un alcotest. Hein.
Ouais, mais je pense que le mieux, c'est quand même de ralentir enfant avec le triangle d'un animal domestique au-dessus. Ouais. Celle-ci, elle est quand même très très bien. Salut Sebamax.
Il y a une époque où on tenait ses enfants en laisse. Hein.
Oui, bien sûr. Alors, définitivement, Nicolas, faut qu'on parle. Vraiment, non, si. J'insiste. T'as pris un alcotest, toi, avant de prendre l'antenne, toi? Richard qui nous dit « Salut Sebamax et à tes copilotes et au très grand Nicolas pour le premier thème de ce soir. J'aurais aimé conduire des camions anciens et J'ai déjà essayé des boîtes manuelles sur un vieux Scania, la boîte à étage, la boîte à claque sur un Renault. Et au niveau conduite, effectivement, ce n'est pas pareil. Pour le périphérique parisien, pour moi, c'est une grosse bip, tout comme celle qui est au contrôle. Hashtag Octobre Rose, hashtag Respectons les routiers, hashtag Une heure de plus. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté politique, politicienne derrière tout ça, mon cher ami? Faites-nous une analyse socialo-politique.
Non, à moi, tu me demandes ça?
Non, je déconne. Non, on a quand même les élections municipales qui arrivent.
Voilà, tout à fait. Oui.
Non, mais sous peu.
Mais cela dit, c'est pas un secret. Hein. Anne Hidalgo applique la politique qu'elle avait annoncée. L'objectif, c'est de réduire la place de la voiture. Ils le font déjà beaucoup dans Paris. On le voit bien. Et ça se prolonge sur le périphérique. Après, la difficulté, c'est peut-être qu'elle s'est un peu coupée de la petite couronne, c'est-à-dire des maires et des communes qui
des
sont
gens.
Autour, quoi.
Ouais.
Mais là, le dialogue est un peu rompu. C'est d'ailleurs ce qui a été reproché, notamment par Valérie Pécresse, donc présidente de la région Île-de-France, qui lui reproche de s'être isolée, en fait. C'est-à-dire qu'elle prend des décisions comme ça, parce qu'elle est maire de Paris, elle a le droit de prendre la décision de réduire la vitesse sur le périphérique parisien, parce
avec
qu'il est dans l'enceinte de Paris, avec le corps de l'État.
Mais qui n'a pas mis de veto, finalement.
Voilà, qui a donné son accord. Mais elle le prend toute seule, c'est-à-dire que voilà, elle ne tient pas compte des communes alentour. Quoi.
Et puis on avait notre sondage, évidemment, en cours ce soir.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sondage.
Est-ce que vos temps de trajet continuent d'augmenter sur vos lignes? On était à près de 60% pour le oui. Ben on est tout pile à 60%. Et 40% nous disent que non, leurs temps de trajet n'ont globalement pas augmenté sur leur ligne. Emmanuel nous a écrit, nous parle de notre premier sujet de ce soir. Je vous rappelle, pour ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission, qu'on nous avons parlé d'une comparaison réalisée par Fabien Calvé dans le numéro d'octobre de France Route, avec une vidéo à voir sur YouTube, le YouTube de France Route. Un DODAF à 50 ans d'écart. Article à retrouver dans le France Route. Et nous en avions parlé. Emmanuel qui nous dit « Bonjour Sebamax et les copilotes. C'est vrai, quand on regarde les camions des années 60, 70, 80 à maintenant, une grande progression. Mais dommage que certains laissent encore en option des éléments de sécurité comme la pression des pneus par exemple, ou clim de nuit ou le bouton SOS. Bonjour à Natouche et le grand et un décrotable Merlin. » Voilà, message qui est passé. Merci Emmanuel pour ce message. D'ailleurs, en parlant des éléments de sécurité, beaucoup ont été mis en série. On en avait parlé ensemble d'ailleurs dans cette émission. On y dédiera une émission complète courant novembre sur ces nouvelles réglementations de sécurité dans les camions et qui sont donc devenues obligatoire depuis cet été. Merci Emmanuel pour ce message. Cédric nous a écrit également et il nous dit bonsoir à toute l'équipe. Il souhaitait le bonsoir à Fabien. Il nous a envoyé des vieux modèles de Mercedes et de Renault, dont un avec son papa devant, Clémence, ma fille, avec Fabien. Donc là, ça a l'air d'être dans un camion. Ah, c'est dans le Pace-Truck, a priori. Le Pace-Truck des... Du championnat. Merci
Ford
beaucoup.
F-Max.
Voilà. Merci beaucoup Cédric pour ce message. David également nous a écrit bonsoir Sebamax et toute l'équipe. Pour moi, j'ai conduit les tontons, c'est-à-dire, et un GMC 6x4 à direction assistée. Tout ça n'a rien à voir avec les camions d'aujourd'hui. Les bons chiffres à tout le monde et aux chauffeurs de la STEM de Nice. Merci beaucoup Didou de Nice. Les camions, les tontons, c'est quoi? C'est le camion, les tontons flingueurs? Est-ce que quelqu'un peut m'en dire un petit peu plus?
Non, tout terrain, non?
Peut-être, je sais
c'est
pas.
C'est quoi?
J'ai conduit les tontons. Voilà. Donc ça c'est peut-être un surnom qu'on donnait à un camion, ouais, je ne sais pas, possible. Fabien, on rappelle Fabien tout de suite. Le pauvre, il doit être en train de dormir. Voilà. Olivier de Toulouse également nous écrit, écoutez bien ce qui va suivre. Bonsoir Sebamax, tes invités, la Dream Team, retour exceptionnel parmi vous pour la nuit. J'ai pas conduit de camion aussi vieux, mais je me souviens avec nostalgie d'un Volvo FH12. Attention, écoutez bien. À 2 900 000 km.
Oui. F12, non ?
Oui. F12. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que je viens de dire. Mais tu m'écoutes pas.
FH12.
Bah oui. F12. Non, il m'a marqué FH12, Olivier de Toulouse. C'est ce qu'il m'a marqué. Ouais. Moi, je lis ce que l'auditeur, il me marque, toujours. Hein. Voilà. 2 900 000 km. C'est assez incroyable, ça, en tout cas. Merci beaucoup pour.
C'est F12.
Bon, je sais pas, voilà. Mais Nicolas, si tu parles pas devant ton micro, on ne peut pas t'entendre.
C'est F12, je pense, mais il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Hein,
voilà.
Le FH12 aussi a existé, donc voilà. Donc, autant pour moi.
2 900 000 km, c'était l'info importante. Voilà.
C'est impressionnant.
Et il nous dit, j'en profite pour signaler sans gêne à la circulation un garde-boue de camion sur la 61, kilomètre 273 dans le sens Toulouse-Narbonne. Bonne route et 212 à tous, signé donc notre ami Olivier de Toulouse. Marielle, nouvel événement ?
Non, pas du tout.
Ah, d'accord. Je pensais.
Allez, Marielle, un petit bouquet de pâquerettes, s'il vous plaît.
Ah, ça oui, on veut bien aussi. Richard nous dit, je pense qu'elle ne se rend pas compte que les routiers ont un chrono tachygraphe au-dessus de nos têtes et qu'on est limité en temps de conduite. Alors ça, c'est pas tout à fait impossible. Notre ami Steph Tourist Liner qui nous donne de ses nouvelles également ce soir. Bonsoir Sebamax, ainsi qu'à tes deux copilotes. J'ai eu la chance plus jeune de pouvoir conduire des anciens camions avec la boîte manuelle et le bon vieux tachygraphe à disque. Pour les plus jeunes, vous googliserez quand vous serez à l'arrêt. Pour le périphérique parisien, je ne me prononcerai pas vu que je l'évite coûte que coûte. Petite et grande couronne, j'y suis allergique. La bonne soirée et la prudence sur les routes et mes amitiés à la team des FADA et protéger nos patrouilleurs et patrouilleuses. Merci Steph pour ce rappel et ce message. Tiens, j'en profite également par rapport à ce que nous disait Steph Tourist Liner sur le fait qu'il l'évite coûte que coûte. C'est un peu ce qui risque de se passer, c'est-à-dire que la francilienne risque de prendre cher prochainement si ça continue comme ça.
Bah oui.
Et que
ça va s'étendre.
Et que du coup, les difficultés de circulation pourraient s'étendre à la francilienne.
C'est comme
parce
le
que,
Covid, hein, ça se diffuse vite. Hein.
Voilà, bien sûr. Mais c'est pas possible. Eric qui nous dit salut Sébastien, les tontons, c'est des camions que le transporteur fabriquait lui-même. Eh ben voilà, merci.
Ouais, d'accord.
Donc c'était du rétrofit avant l'âge, quoi. Ouais, c'était du rétrofit avant l'âge. Les tontons, voilà. Ben merci pour la précision, Eric, et on en apprend tous les jours dans cette émission. En tout cas, un grand merci à toutes et tous pour votre participation. J'espère n'avoir oublié personne. C'est Olivier qui nous dit Hervé serait ministre du berlier à pédale dans les ronds-points. Voilà. Signé Olivier 18. Et Guillaume me dit Sebamax, ministre de l'heure en plus.
C'est pas mal aussi.
Je ne commenterai pas. Hashtag tunnel. Voilà, je passe dans un tunnel. Voilà, je suis dans le tunnel du Rousti, là, de la route du rôti de bœuf. Voilà. Et puis c'est tout. Merci beaucoup, Nicolas.
Ben merci Sébastien, merci à tous, merci Marielle, merci Hervé, c'était un plaisir.
Et puis on se retrouve dans 3 semaines maintenant, début novembre.
Bon, déjà, seulement.
L'immense.
Moi je vais revenir
Nicolas
la
Grumel.
Semaine prochaine.
Ben voilà. Tu peux, hein, on sera là nous, hein, de toute façon. Hein. Merci.
Ben, je vais faire des tours de périph' en attendant pendant 3 semaines et je reviens vers vous après.
D'accord.
Je vous livrerai mon expérience.
C'est ça. On fera une interview croisée entre toi et Hervé avec ses tours de rond-point.
Tu sais, il y en a un, il reste dans les arbres pour dire sauver les arbres. Ben moi, je vais faire des tours de périph' pour dire sauver le périphérique.
Ah ben, c'est pas gagné notre histoire, hein, moi je vous le dis. Hein. Merci Marielle et Hervé, très belle soirée à tous les deux.
Ben, merci aussi, et moi je vous ramènerai un gros bouquet de pâquerettes. Voilà.
Bonsoir Hervé.
Bonsoir Sébastien, bonsoir Marielle, et de tout en bas, bonsoir tout en haut à Nicolas.
Et ben voilà le message qui est passé. Christian qui ajoute, bonsoir, les anciens camions tontons étaient fabriqués à l'OEAC en Bretagne par un transport. transporteur local. Et ça, ça me parle, les transports Loberg, parce qu'on avait eu l'occasion d'en parler dans cette émission. La plus grande vigilance ce soir et cette nuit sur les Cévennes, avec cette vigilance orange qui se déclenche. Hein. Dans une heure, on en reparlera. Demain, les visites médicales pour le renouvellement de votre permis de conduire tous les 5 ans. Certains départements dépourvus de médecins agréés allongent les délais, vous l'entendrez. Je vous souhaite plein de courage pour ce soir et cette nuit, la prudence ou la bonne nuit. Je vous dis à demain 21h. Prenez bien soin de vous, car chaque jour, chaque nuit est une vie. Travaillons ensemble à la beauté des choses. 73 51 88 soit 212. Hashtag respectons les routiers. Vous écoutez le 107.7. Il est 23h.
Retrouvez Les Routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi 21h-23h sur Radio Vinci Autoroute.